Il est entre 18h15 et 18h30 sur Jet FM. Il est à peu près l'heure d'écouter Retransmission.
Retransmission. L'émission qui permet de découvrir des projets sonores de créatrices et créateurs indépendants. Aujourd'hui dans Retransmission, nous allons écouter le troisième épisode de la série Les Givrés d'épaule, réalisé par Oriane Laromiguière, Barthélémy Antoine Louf, éleveur d'iceberg. Bonne écoute.
Les Givrés.
Les givrés.
Les givrés.
C'est toute la glace du pôle Nord fond. Est-ce qu'on aura des pieds dans l'eau?
Les givrés d'épaule.
Les givrés d'épaule.
Les givrés d'épaule. Le podcast qui explore les zones polaires.
Les mondes polaires fascinent l'homme depuis des siècles. Ils suscitent le rêve et l'inquiétude, l'inaccessible et le fragile. Ils évoquent les dernières grandes découvertes du monde terrestre telles que nous le cartographions aujourd'hui. Au nord, un océan couvert de glace, au sud, un grand continent blanc. Ces mondes polaires témoignent aussi des changements et des dérèglements climatiques. Les scientifiques et les explorateurs qui s'aventurent au pôle racontent et documentent toutes ces évolutions. Mais il y a quelque chose qui ne change pas dans ces régions. C'est la lumière. Celle du soleil qui jamais ne se couche, ou celle des aurores qui dansent dans la grande nuit de l'hiver. Dans cette lumière particulière des mondes polaires, l'artiste plasticien Barthélémy Antoine Louf puise son inspiration. C'est lorsque la nuit tombe que l'on fait naître des rêves et des mondes. « Plus le soleil se couche tôt, plus j'ai l'impression de me réveiller », dit-il. Je m'appelle Oriane Laromiguière, je suis journaliste, et dans ce podcast, je vous emmène à la découverte des zones polaires, à la rencontre d'humains passionnés de ces régions qui arpentent, décryptent et analysent ce qu'il se passe là-haut ou là-bas. Ça dépend où l'on se situe. Bienvenue dans les Givrés d'épaule.
J'ai toujours été attiré par ces zones qui sont des grands déserts arides d'humanité, le vent souffle, il fait froid, il fait blanc et en même temps il y a une chaleur dans la lumière qu'on retrouve absolument nulle part. C'est aussi un endroit où la nuit pose son manteau pendant un certain temps et c'est propice à faire rêver, c'est propice à faire naître en fait des univers. Et donc je crois que d'une certaine manière, mon premier rapport avec ce monde-là, c'est tous ces éléments-là et probablement ce fameux manteau de nuit qui repose sur ce paysage-là et qui, quand la neige est là, c'est une lumière un peu étrange. Pendant très longtemps dans mon travail, j'ai travaillé sur des questions de matière-lumière, donc la transformation de la lumière, et ça a été des grandes sources d'inspiration pour moi que ces fameuses lumières des aurores boréales, mais aussi la façon dont la neige réagit à la lumière de la lune et à la lumière du soleil. Et puis, j'ai fait aussi un certain nombre de voyages, alors en Islande, en Finlande, au Canada. Et quelque part, je me suis presque approprié cette matière, mais de manière beaucoup plus physique. Je suis attaché au manteau neigeux, parce que déjà, il y a une sonorité qui est très particulière, qui est très sourde. On s'y sent bien. Et je crois que c'est là aussi quelque chose qui me porte, moi, dans mon travail, mais aussi dans tout mon être. Et ça amène des sentiments de contemplation extrêmes, finalement, d'être dans ces environnements-là. Et on sent quelque part que la nature est toute puissante et que nous, on n'est absolument pas grand-chose. Et qu'en même temps, il y a une force qui peut nous habiter quand on est dans ces zones-là, qu'on sous-estime peut-être quand on est dans nos latitudes à nous. En fait, on se réveille, en tout cas, dans ces zones-là.
Lorsque l'on tape son nom sur Internet, on peut lire cette phrase dans sa biographie. Barthélémy Antoine Louf vit entre les glaces et Paris et travaille là où le monde fond. Dans sa dernière installation, c'est surtout la notion de cryosphère qu'il explore.
La cryosphère, c'est toutes les glaces qui recouvrent ou qui sont sous le sol sur notre planète. Ce sont tous les endroits glacés. Et pour moi, ce qui est intéressant dans la notion de cryosphère, c'est que c'est une peau. Une peau qui craque, qui vit, qui boursoufle. Et qui, d'une certaine manière, quand je parle de la cryosphère, c'est pas seulement ce qu'on rencontre dans le Grand Nord ou au pôle Sud, c'est aussi les glaciers qui sont en Europe, c'est aussi les glaciers qui sont en Amérique centrale, c'est aussi cette couche gelée qu'on appelle le permafrost, tous ces endroits où concrètement il y a de la glace sur notre globe et qui composent une peau qui aujourd'hui vit, craque, boursoufle, mais qui souffre énormément.
Entendre, sentir et ressentir la glace comme une peau qui respire et qui souffre. Lorsqu'on a atteint ce niveau de sensation, il n'y a pas l'ombre d'un doute, on a été touché par le virus polaire, le fameux polar bug, celui qui nous rend accro à ces régions. Barthélémy, lui, préfère un autre terme.
Je suis atteint d'une maladie rare, la nordicité, c'est quand même assez marrant de dire ça, quoi. Le mec, il est atteint de quoi ? De nord. Voilà. C'est un autre virus, finalement. Alors le virus polaire, il n'est peut-être pas forcément rattaché à une région du monde, puisque on a deux pôles. La nordicité est peut-être plus rattachée au nord, parce que le terme qui a été inventé par Louis-Edmond Hamelin, qui est un géographe canadien, québécois, et qui a tenté de donner des définitions à un certain nombre de phénomènes qu'on ne retrouve que dans le Grand Nord.
Est arrivé le mot nordicité en 1965. Le mot nordicité, c'est un mot d'abord IT, la finale IT. C'est pas un... Déjà, c'est un mot qui engage, c'est une évaluation, l'état de, la qualité de, du Nord. Donc, ça engage déjà l'homme qui parle, et pas simplement, en fait, son objectivité vers un phénomène à décrire lointain de lui. Mais le mot nordicité, c'est un mot holiste, c'est un mot global, c'est un mot d'ensemble. Il ne s'agit plus, en fait, de considérer cette immense... pays zone polaire, cet immense monde polaire, ce circum-nordique. Le considérer simplement par tranche, par un petit bout, une spécialité, une sectorialité, etc. Il faut voir l'ensemble. Et le mot nordicité, c'est un mot globaliste, un concept global pour considérer dans sa totalité l'ensemble de la situation des pays polaires.
Pour moi, la nordicité, ça a cette espèce de poésie qui est attachée au Grand Nord. J'aime bien les histoires qui sont dans le Grand Nord. Alors, il n'y a pas que les explorateurs qui se sont perdus au milieu de cette banquise. Il y a aussi tout ce que les peuples autochtones nous racontent du Grand Nord, tout ce qui nous ramène aujourd'hui de leur vie actuelle dans le Grand Nord et de toutes les transformations qu'ils sont en train de subir. Donc, moi, ce que j'aime bien aussi dans ces paysages-là, et c'est ce qui m'intéresse, c'est que ce sont des paysages qui sont très changeants, qui se développent, qui fondent, qui prennent d'autres couleurs pendant 6 mois de l'année. C'est un monde d'ombre aussi, beaucoup. Et donc, dans les ombres, il y a beaucoup de choses qui naissent. Donc, c'est cette espèce d'ensemble de choses qui fait que c'est un paysage donc très fragile, très mouvementé, quelque part torturé aussi, et en même temps très calme, parce que le blanc de la neige ramène ce calme, qui fait que ça devient une grande source d'inspiration pour moi, parce que ça procure de l'énergie, et qu'il y a une énergie dingue, en fait, dans ces paysages-là. Et c'est une énergie dans laquelle, quand toi, tu te retrouves seul, finalement, confronté à ce paysage-là, tu as une capacité... ou d'être effrayé, parce que c'est effrayant d'une certaine manière, ou au contraire de te ressourcer. Et moi, je crois que je suis plutôt du côté de quelque chose qui me ressource, qui me tranquillise, qui me ramène à ma qualité de simple humain qui peut être observateur et qui peut juste se poser là, écouter les sons de la nature, regarder ce qui se passe. Après, le processus qui me permet de le transformer, je crois que j'ai envie de retrouver dans mon travail les sensations que j'ai quand je suis dans ces zones-là, mais pas uniquement dans ces zones-là, mais en tout cas ce retour à la lenteur ou ce retour aux choses qui bougent de manière très subtile autour de nous. Et je crois que c'est à cet endroit-là que s'opère la transformation. C'est ramener finalement la sensation que j'ai eue dans ces paysages-là. Quand on parle d'une aurore boréale, j'ai une installation qui s'appelle Lios, qui parle finalement d'un processus de transformation de la lumière, mais qui a pour résultat une certaine forme d'aurore boréale. Alors, je ne recrée pas une aurore boréale, mais je recrée quelque chose qui s'apparentait à ce que moi j'ai ressenti quand j'ai vu l'aurore boréale. Il y a quelque chose de l'ordre de la plénitude. Et en même temps, une fascination pour une lumière qui flotte dans l'espace, qui, moi, me rappelle un peu le crépitement d'une cheminée. Ce n'est pas tout à fait le même rythme, évidemment, puisque le feu de cheminée crépite, mais il y a le même, pour moi, le même hypnotisme qui s'opère quand on regarde un feu de cheminée, quand on regarde une aurore boréale. Même si, évidemment, l'aurore boréale, il y a quelque chose de, qui s'élève au-dessus de nous et qui nous amène vers le cosmos ou qui nous amène vers l'espace.
Engagé sur les questions climatiques, Barthélémy Antoine Louf creuse la question de la disparition de la cryosphère. Alors que ses projets artistiques sont brusquement stoppés par la pandémie, il crée en 2020 une nouvelle œuvre, une installation qui porte le nom de Tipping Point.
Tipping Point, signifie point de basculement. On estime que dans le climat, on va traverser un certain nombre de points de basculement qui sont des points de non-retour, où on en a déjà traversé un certain nombre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un terme qui est issu de la sociologie et ça se rapporte à un moment dramatique où un phénomène singulier devient commun. Et ce que je trouve intéressant avec les points de basculement, c'est justement dans le climat, c'est quand un événement rare, singulier donc, devient une temporalité commune. Et donc nos glaciers sont voués à disparaître et on le sait maintenant, c'est un secret pour personne. Et Tipping Point, mon installation, parle finalement de ces glaciers qui sont en train de disparaître. Sauf que j'ai décidé de laisser une porte poétique, finalement, dans ce point de basculement. Est-ce que le point de basculement, ce sont ces glaciers qui sont en train de disparaître, ou est-ce que ce point de basculement, ce sont ces glaciers qui vont renaître? Et donc l'installation présente un glacier sous cloche. Donc il est protégé, il est confiné. C'est un processus de laboratoire fictionnel qui maintient en vie artificiellement un glacier qui prolonge sa vie. Et donc, on est en droit de se poser la question de savoir si, finalement, ce glacier qui est à l'intérieur de sa cloche en verre fait partie des derniers glaciers qu'il faut absolument sauvegarder, ou est-ce que c'est un nouveau glacier qui est en train de naître et qui va donner quelque chose. Et donc, moi, le point de basculement se situe à cet endroit-là. Je l'ai pris d'un point de vue sociologique, d'un point de vue climatique, mais aussi d'un point de vue poétique. Parce que on peut analyser en fait cette terminologie-là d'un certain nombre de points de vue. Et moi, je suis pas chercheur, donc je me permets aussi de jouer finalement avec ces mots-là. Ça permet de construire des récits. Et d'une manière générale, d'ailleurs, de toute façon, dans mon travail, j'ai un peu comme fascination ou comme objet d'étude ou comme point commun entre tous mes travaux de maintenir en vie artificiellement des phénomènes qui sont en train de mourir ou qui sont rares ou qui sont précieux ou qui sont succincts, ou voilà. C'est le cas d'une supernova qui est en train d'exploser avec le soleil noir, c'est le cas des aurores boréales avec Lyos, et c'est le cas de Tipping Point avec le glacier. J'en ai d'autres, voilà, elles ont toutes un peu cette question d'un phénomène qui est prolongé, dont la vie est prolongée artificiellement.
En août 2019, on assiste pour la première fois à un événement hors du commun. Le premier enterrement d'un glacier. Ça se passe en Islande. Des dizaines de personnes ont fait le déplacement pour déposer une plaque commémorative là où se trouvait un glacier, officiellement disparu en 2014, après 700 ans d'existence.
Siji, le glacier au Kyokul. Une formule que les Islandais ne pensaient pas entendre de leur vivant. Pourtant, ce dimanche, c'est bien une épitaphe qui a été fixée sur ce qui reste du glacier. Quelques mots déposés en présence de la première ministre qui s'intitule « Lettre pour l'avenir ».
La plaque s'intitule « Une lettre pour le futur ». Dans le texte, cette phrase « Tous nos glaciers devraient connaître le même sort d'ici 200 ans ». Ce monument atteste que nous savons ce qu'il se passe et ce qui doit être fait.
Et ce qui m'intéressait, c'est que finalement, c'est le premier glacier à être officiellement reconnu disparu du fait de l'impact de l'être humain sur son environnement. Ce n'est pas le premier glacier à disparaître, ce ne sera pas le dernier, mais c'est le premier à recevoir une telle distinction. C'est-à-dire que poser une plaque commémorative à l'endroit où se tenait le glacier, plaque commémorative posée par le gouvernement islandais, je trouve que c'est quelque chose qui est très fort. Et il faut bien comprendre aussi une chose, c'est que les gens qui habitent d'ailleurs toujours autour de ce glacier, eux ont vu disparaître ce monstre de glace, disparaître en l'espace de, je sais pas, un siècle. Enfin, c'est une vie d'homme, alors que la cryosphère a mis des millions d'années à se reconstruire. Donc c'est un point de basculement certain. Et ça a créé d'ailleurs chez les gens un certain nombre de prises de conscience d'un côté, et puis de dépression, d'éco-anxiété, parce que ce glacier disparaissait de jour en jour devant leurs yeux. Tipping Point vient aussi, et ça je trouve ça à la fois très poétique et très intéressant, du travail d'un ingénieur indien qui s'appelle Sonan Wangchuk, qui fait des stupas de glace, des glaciers artificiels dans le Ladakh. Ce sont donc des monticules de glace qui sont créés artificiellement pour répondre à des besoins liés à la sécheresse sur le Ladakh, parce que le plateau du Ladakh est une zone où il n'y a plus d'eau, concrètement. Et donc, cet ingénieur-là s'est emparé d'un savoir-faire ancestral, l'a retravaillé, l'a remis au goût du jour, de manière à créer des glaciers artificiels, donc qui sont vraiment des réservoirs d'eau glacée, qui vont fondre pendant toute la période estivale, de manière à donner de l'eau potable et de l'eau douce aux populations locales pour qu'elles puissent boire de l'eau et puis avoir de l'eau pour les cultures, pour les bêtes, enfin voilà. Mais ce que je trouvais très beau, c'était cette notion de glacier artificiel. Et Tipping Point, finalement, c'est un glacier artificiel. Il est recréé, refabriqué par la main de l'homme. Et il pose du coup cette question de savoir si, à un moment donné, la technologie, ou en tout cas l'être humain, va pouvoir réparer le climat en utilisant des technologies diverses et variées. Le principe de la pièce, ce n'est pas tellement de répondre à cette question-là, parce que je ne peux pas me permettre de répondre à cette question-là, même si j'ai un avis là-dessus, mais de poser en tout cas un espèce d'équilibre poétique entre la disparition des glaciers d'un côté, le fait qu'il faut en prendre soin parce que c'est une ressource qui est précieuse, et en même temps, est-ce que ça peut devenir un processus de laboratoire que de recréer des glaciers. Donc l'inspiration de ce glacier artificiel se trouve à cet endroit-là pour la pièce.
Pour vous décrire l'installation Tipping Point, il faut imaginer une cloche en verre, une double cloche en verre qui protège un petit morceau de glace. La cloche en verre fait une trentaine de centimètres, le glacier qui est à l'intérieur environ 5 ou 6 centimètres.
Il est très mouvant puisque c'est une matière qui vit la glace, et en fonction de l'endroit où il est posé, la glace va cristalliser, va fondre, va prendre des teintes plus ou moins transparentes. Et puis, le long de la cloche en verre, il y a un tube en verre aussi qui sert à faire voyager une goutte qui l'amène au sommet de la cloche et qui vient alimenter le glacier toutes les 30 minutes, chaque 30 minutes. Il faut une certaine dose de magie pour faire vivre un glacier comme ça sous une cloche en verre. D'une manière générale, dans mon travail, j'essaie de préserver l'émerveillement. Pour moi, la question de comment ça marche, j'aime bien répondre que ça marche par magie. Il faut un souffle boréal et de l'eau de glacier pour refabriquer un nouveau glacier. Et c'est ce souffle boréal qui permet au glacier de geler et de ne jamais fondre, qui est capturé et qui est placé sous cloche.
Bon, j'ai insisté un peu et Barthélémy a accepté de me révéler le fonctionnement du glacier.
Le dispositif technologique qui est derrière la pièce, il a été inspiré par une glaciologue que j'ai rencontrée à Grenoble, qui s'appelle Maureen Montagnard-Rentier, qui travaille sur le grain de croissance de la glace. Elle m'a ouvert les portes de son laboratoire et elle m'a montré un petit peu comment est-ce qu'elle étudiait la cristallisation de la glace. Je me suis un peu inspiré de son dispositif de laboratoire. Alors, c'est pas cette forme-là dans son laboratoire, mais en tout cas, les outils qu'elle utilise pour étudier la cristallisation de la glace sont à peu près similaires à ce que moi j'utilise pour préserver ce petit morceau de glace sous sa cloche en verre. C'est ce qu'on appelle bêtement une cellule pelletier. C'est un dispositif thermoélectrique, donc je pompe de la chaleur via un petit dispositif électrique et je la fais rejaillir ailleurs, de manière à ce que la température sous la cloche soit maintenue à une température qui permette au glacier de ne pas fondre.
En février 2021, alors que tous les lieux d'exposition et les musées sont encore fermés, Barthélémy décide de sortir son œuvre de son lieu de confinement auquel personne n'avait accès.
Je me suis créé un personnage qui est un personnage d'éleveur d'iceberg et je vais donc déposer ce fameux glacier chez les particuliers qui ont pour mission de veiller sur lui ou d'en prendre soin. Et tous les 10 jours, comme ça, je vais le déplacer d'un particulier à un autre chez des gens qui deviennent à leur tour éleveurs de glaciers. Et donc ce projet est devenu à la fois un projet très politique, puisqu'il répond à une situation actuelle qui est la situation de la crise sanitaire qu'on traverse, qui fait que tous les lieux d'expression sont fermés, mais il est devenu aussi un relais poétique, passeur de sensible, ou en tout cas moi je suis passeur de sensible, pour parler des enjeux liés à la disparition de la cryosphère d'un côté, mais aussi essayer d'être finalement ce lien social où ce glacier devient finalement le lien social que la pandémie nous impose de rompre. Ce projet-là, il a une certaine forme de résonance parce qu'on a tous besoin de se reconnecter à quelque chose. Et finalement, ce glacier personnifie notre attachement à la fois à la cryosphère. Sans elle, on n'est rien. Donc, si on ne veille pas sur cette cryosphère, je ne donne pas cher de notre peau, malheureusement. Mais aussi, ce glacier, c'est ce lien qui nous unit les uns aux autres. Et donc, le fait de le déplacer permet de redonner finalement ce lien et permet de remettre en avant ce lien dont on a besoin.
Lorsque j'ai rencontré Barthélémy en avril 2021, j'ai pu l'accompagner dans un de ses déplacements. Sur les pavés parisiens, il transporte le glacier de particulier en particulier à bord de son vélo triporteur.
Alors, on est dans un immeuble du 15e arrondissement à Paris et je vais arriver chez Manu.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci. Alors, c'est toi qui as gardé le glacier pendant les 10 derniers jours, c'est ça?
Effectivement.
Tu me montres où il est?
Eh bien, il est au fond du couloir, on va y aller. Et voilà le beau glacier. Alors, il y a deux cloches qui sont l'une dans l'autre et au milieu, il y a un petit carré sur lequel est installé un glaçon qui prend forme de jour en jour au fil des gouttes qui tombent toutes les 30 minutes.
Comment ça se fait que tu te retrouves avec un glacier chez toi?
J'aimais bien le concept de « on ne peut pas aller au musée, le musée vient à nous ». Et puis pour soutenir le milieu un peu culturel, c'était une bonne idée. Du coup, j'ai ouvert ma porte à toute forme de glaçon. Voilà.
Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 jours où tu as eu cette œuvre d'art chez toi? Qu'est-ce que ça t'a procuré comme émotion? Est-ce qu'il a fallu que t'en prennes soin tous les jours? Comment ça s'est passé pendant ces 10 jours?
En prendre soin, surtout qu'il n'y ait pas effectivement d'objets qui viennent un petit peu le déranger ou le mettre un peu en péril. Donc ouais, on avait une sorte de protection vis-à-vis de cet objet-là. Et le fait qu'il y ait des gouttes qui tombent toutes les 30 minutes, ça a l'air un peu surprenant, mais ça m'a fait réaliser qu'il fallait que j'arrose un peu plus souvent mes plantes. Et elles sont en pleine forme et elles sont super vertes. Donc le mérite qu'a ce glacier, en plus d'être joli et de sensibiliser sur la fonte des glaces, c'est que voilà, m'a fait réaliser que un petit côté écolo en plus, quoi.
La fonte des glaces, est-ce que c'est une problématique à laquelle tu étais déjà sensibilisé avant d'accueillir le glacier chez toi?
Pas tellement. J'avoue que c'est un sujet qui me paraissait pas forcément primordial et puis on n'entendait pas forcément parler autour de moi. On était plus sur la déforestation, mais pas du tout sur la fonte des glaces. Enfin, en tout cas, moins. Alors effectivement, les glaciers fondent et le niveau des mers monte, mais ça s'arrête là, quoi.
Barthélémy est là aussi dans l'appartement de Manu pour venir chercher le glacier et le déplacer d'un appartement à un autre. Il porte une drôle de combinaison, comme un bleu de travail, mais noir. Et puis il y a une petite étiquette sur son torse avec marqué « éleveur d'iceberg ». Barthé, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire ?
Alors là, je prépare à basculer le dispositif sur une toute petite batterie de manière à ce que le système froid continue à fonctionner pendant le transport du glacier.
Opération réussie ?
Opération réussie. Et donc là, on a une demi-heure pour pouvoir déplacer le glacier chez la personne suivante. Une demi-heure d'autonomie.
Tu le transportes comment ?
Dans une boîte, dans une caisse de transport avec plein de mousse pour le protéger parce qu'il est fragile.
Sur la caisse, il y a un autocollant qui dit « Fragile, glacier artificiel ».
Il y a effectivement une petite étiquette sur la caisse pour alerter les automobilistes que ce qu'on est en train de transporter est extrêmement fragile, un petit peu comme si on transportait un organe, finalement, pour une transplantation. C'est un peu ce qu'on fait, là. On transplante le glacier d'une personne à une autre.
Le glacier est dans la boîte.
Voilà. On est parti ?
On est parti.
Allez. Merci d'avoir pris soin du glacier.
Je t'en prie.
Et c'était cool que tu l'aies. Et maintenant, il va continuer sa vie chez quelqu'un d'autre. Donc là, on est parti dans la séquence. C'est un peu notre rituel. C'est les escaliers. Un glacier, ça pèse lourd. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Non, mais je ne sais pas combien il pèse, mais c'est marrant parce que régulièrement, avec Jeff, on se dit que le glacier a pris un peu du poids.
C'est la charge émotionnelle, ça. Il se charge à chaque fois, tu vois.
Quand j'ai commencé ce projet-là, de déplacer ce fameux glacier d'un particulier à un autre, j'étais très loin de m'imaginer la charge émotive que ça allait générer. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'on a des profils qui sont complètement divers et variés, puisqu'en fait, dedans, il y a eu des écrivains, philosophes, il y a des alpinistes, il y a des gens qui sont touchés de près ou de loin par rapport à la question de la disparition de la cryosphère, d'autres qui n'y connaissent absolument rien. Il y a des personnes qui sont plutôt attachées à la question de l'œuvre d'art, d'autres plutôt attachées au dispositif de laboratoire. Donc, il n'y a pas de profil type, j'ai envie de dire, qui le reçoit. Et c'est tant mieux, puisque c'est l'idée de ce projet-là, c'est de sortir aussi de cette bulle qui est juste réservée à montrer l'exposition, montrer l'œuvre d'art dans un dispositif d'exposition. Là, l'idée, c'est que les gens vivent avec. Donc, les gens font leur quotidien avec ce fameux glacier. Il y a des personnes qui lui donnent un nom, qui lui parlent. Quand je vais le rechercher, ce glacier, c'est presque un crève-cœur pour certains de le voir partir. Donc, quelque part, je suis aussi en train de forger un récit à partir de toutes les expériences que les gens me donnent, me livrent par rapport à leur vécu avec le glacier. La première personne qui l'a eu, ce glacier, s'appelle Sabrina Calvo, c'est une écrivaine de science-fiction. Elle lui a donné comme petit surnom « Petit être étrange » et elle lui a carrément cousu un petit manteau à l'image ou à la taille du glacier pour éviter qu'il prenne froid. J'ai eu quelqu'un d'autre qui l'a appelé son totem et qui lui disait « Bonjour totem » tous les matins et qui lui disait « Bonsoir totem » tous les soirs. Il y en a d'autres qui m'ont dit que cette goutte qui tombait créait un vrai rituel dans la journée, un vrai rythme dans la journée, et qu'à chaque fois qu'ils l'entendaient arriver, ils s'arrêtaient de faire ce qu'ils étaient en train de faire et qu'ils regardaient finalement ce glacier grandir comme ça à vue d'œil. Il y en a d'autres qui me disaient qu'à chaque fois qu'ils voyaient la goutte, ils faisaient un vœu. Donc il y a vraiment il y a une relation très personnelle qui naît de ce glacier-là. Il y a même cette prise de conscience que finalement, ce glacier, si on le débranche, il meurt. Donc, c'est un être vivant. Et aujourd'hui, je crois qu'aussi, on est tous à fleur de peau avec tout ce qui se passe dans la crise sanitaire et que avoir un objet comme ça chez soi, ça n'est pas anodin parce qu'il est passé chez d'autres personnes, il s'est chargé quelque part de l'histoire de la personne précédente, il va se charger de la personne suivante et petit à petit, le glacier m'appartient même plus, en fait, quelque part. J'ai créé le dispositif qui permet à ce glacier d'exister. Mais je veux dire, aujourd'hui, le glacier appartient tout autant aux personnes qui l'ont reçu qu'à la personne qui l'a créé, voire même il m'appartient presque moins que les personnes qui ont vécu réellement une dizaine de jours avec ce glacier. En amenant ce glacier-là, il y a quelque chose qui naît dans la tête des gens, qui est probablement déjà là, hein, mais que nous sommes là parce que la cryosphère existe, en partie, que nous devons prendre soin de la cryosphère pour qu'elle puisse prendre soin de nous. Alors c'est très anthropomorphique de dire ça, mais que, en tout cas, prendre soin de la cryosphère, c'est en quelque sorte aussi prendre soin de nous, et que avoir ce petit bout de dérèglement climatique dans son salon, puisqu'il y a quelqu'un qui m'a dit « mais j'ai eu l'impression d'avoir un petit bout du dérèglement climatique dans mon salon », ça peut permettre de percuter un peu plus les esprits. Maintenant, je ne me fais pas non plus d'illusions, il y a une dizaine de personnes aujourd'hui qui ont reçu le glacier, mais il n'empêche que je rentre dans l'intimité des gens, et je rentre avec peut-être un tout petit peu plus de sensibilité et un tout petit peu plus d'émotion, quelque part, ce qui fait que la question de la menace qui pèse sur les glaciers est posée autrement. Là où, quelque part, les médias nous relaient les informations très froides du monde scientifique, qui a raison, est très, très cadré, donc ne font pas dans l'émotion, là, je ramène cette question-là dans quelque chose qui peut peut-être tirer une autre corde sensible chez les gens. on joue avec un certain dramatisme, on rajoute quelque chose de très romantique aussi à ce glacier, qui fait que ça va toucher finalement cette corde sensible. Et c'est pour moi une façon d'entrer, effectivement, qui peut être plus efficace aujourd'hui que juste avoir un énième gros titre qui nous dit qu'on va manquer de ressources en eau, qu'il y a un iceberg qui s'est détaché, qui fait tant de kilomètres carrés, et ce n'est pas complètement normal parce que ce n'est pas tout à fait le bon moment pour qu'il se détache, etc., etc. Donc je pense que oui, tirer cette corde sensible fait que les gens prennent conscience ou sont un tout petit peu plus sensibilisés à ce que c'est qu'aujourd'hui la question ou le devenir de la cryosphère. Cette notion d'éleveur d'iceberg, elle est double. Et j'aime bien quand les choses sont un peu mélangées, sont un peu grises comme ça. On peut entendre éleveur d'iceberg comme si on élevait un troupeau d'iceberg, et on peut aussi entendre éleveur d'iceberg comme si on élevait, donc dans le principe d'élévation, donc de tirer vers le haut, donc de faire grandir quelque part un iceberg pour qu'il devienne un glacier. Et c'est là où se situe pour moi la notion d'éleveur. Alors après, effectivement, chaque rôle de chacun, c'est d'en prendre soin. Mais je pense que l'idée, c'est plutôt dans un cercle vertueux du care, du prendre soin de notre environnement, de notre milieu dans lequel on évolue, plus que de personnifier à l'extrême ce glacier, même si après chacun est libre de faire évidemment ce qu'il veut avec.
Olivier Raymond est philosophe. Il a adopté et hébergé le glacier de Barthélemy pendant quelques jours dans son appartement. L'an dernier, il a publié un livre magnifique, « Penser comme un iceberg » chez Actes Sud, dont voici un extrait. Les icebergs sont-ils trop loin de nous pour que nous en prenions vraiment conscience ? L'objection n'est pas sans fondement. Comment se sentir proche d'entités qui ne se déplacent pas aux mêmes latitudes que la plupart des habitants de la planète ? Comment saisir ici que nos existences personnelles sont liées à leur cycle de vie là-bas ? Le hiatus est difficile à combler. Les explications abstraites ne suffisent pas. On ne peut le surmonter qu'à la condition d'interpréter cette distance comme une figure de continuité. Nous faisons partie d'un monde commun dans lequel chacun dépend de chacun. Les icebergs ne sont pas des solitaires. Ils existent par eux-mêmes en étant bien reliés à d'autres êtres. Ils sont parmi nous, avec nous, et non au loin dans une autre nature dénuée de vie sauvage. Les icebergs sont des professeurs d'autant plus utiles. Ils nous enseignent que tout être est un monde qui rassemble d'autres êtres et conjugue d'autres mondes. Ils nous rappellent que la vie fourmille dans les lieux les plus vides en apparence. Ils nous invitent à nous rendre parfois indiscernables pour mieux coexister avec l'ensemble des vivants. Les icebergs sont des colosses discrets, des antidotes au narcissisme. En eux repose la sauvegarde du monde. Il est temps de penser comme un iceberg.
Je suis très sensible à la notion d'iceberg. Et, parce qu'un iceberg, déjà le mot est très très beau et que ça procure une poésie qui est folle. Il nous met face à nos contradictions. Il faut quand même imaginer que c'est un iceberg qui a fait couler le Titanic. Donc, c'est juste un morceau de glace qui flotte, qui n'a rien demandé d'ailleurs, et qui a fait couler un bateau qui était le bateau le plus gros qu'on ait construit jusqu'à présent. Donc, c'est quelque chose qui nous ramène aussi à notre condition d'homme ou d'humain. Et en même temps, la notion d'iceberg est très très belle parce qu'en fait, à partir du moment où un iceberg vèle, enfin, quand un glacier vèle, cet iceberg qui s'en détache du glacier est voué à disparaître. Donc, il a une finitude. Et dans mon projet, je me suis inventé finalement ce personnage d'éleveur d'iceberg poésie. Parce que je trouvais que ça, c'était plus poétique d'utiliser le terme d'éleveur d'iceberg et que, d'une certaine manière, on s'attache plus à un iceberg pour ce qu'il représente, parce qu'il y a certes cette forme de magie et de majestuosité qui fait que ce morceau de glace flotte, dérive, circule, voyage sur l'océan, par rapport à un glacier où, alors on est bien d'accord, c'est dans l'imaginaire, mais le glacier est presque plus quelconque. dans l'imaginaire du tout venant. Il n'empêche que ce que je dépose chez les gens, c'est un glacier. Et j'aime bien raconter l'histoire de cette manière-là, c'est que finalement, mon point de basculement, c'est un point de basculement où j'inverse le temps, où cette idée d'un iceberg qui petit à petit grossit, devient glacier, et qui, sous cette cloche-là, à une vie évidemment prolongée. Ce qui est assez amusant, c'est que quand je le dépose chez les gens l'appellent iceberg, et quand il repart de chez les gens, souvent c'est devenu un glacier. Alors on est bien d'accord qu'on n'est pas du tout dans un truc scientifiquement exact, puisque les icebergs ne donnent pas naissance à des glaciers, c'est même plutôt l'inverse. Mais ce que j'aime bien, c'est que cette poésie permet de travailler un petit peu sur tous ces mondes qui naissent à la fois des icebergs, à la fois des glaciers, que tout ça, quand ça se mélange, ça crée des récits, et que le récit qui est raconté par Tipping Point, c'est justement cette question d'un nouveau glacier qui est en train de se recomposer, qui redonnera probablement un jour des icebergs si un jour je le dépose quelque part dans la nature et qu'il grandit. Voilà. Un jour peut-être, quand il fera très très froid.
Aujourd'hui, les lieux de culture sont de nouveau ouverts. Il y a quelques jours, l'œuvre de Barthélémy Antoine Louf était exposée à Nantes dans le cadre du festival d'art numérique Scopitone. Après avoir vécu dans une dizaine de domiciles particuliers, Tipping Point ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Dans quelques jours, Barthélémy l'emballera de nouveau très soigneusement, l'embarquera sur son vélo triporteur pour le confier à de nouvelles petites personnes qui prendront soin de lui et continueront de le faire grandir. Le glacier est aujourd'hui âgé de 3727 gouttes. Jusqu'en décembre, il sera installé dans des classes d'école primaire. La cryosphère n'aura bientôt plus aucun secret pour ses futurs éleveurs d'icebergs. Cet épisode a été réalisé par Auriane Larumiguière, avec la musique originale d'Hélène Lemay et les productions Tuxedo Swing, et le mixage d'Alice Krief. Un grand merci à Barthélémy Antoine Louf pour sa participation. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner à la page des Givrés des Pôles, le podcast sur les réseaux sociaux, et à parler autour de vous de l'importance des zones polaires. À bientôt!
Venez d'écouter un épisode de la série Les Givrés des Pôles réalisé par Auriane Larumiguière. Épisode 3, Barthélémy Antoine Louf, éleveur d'iceberg. Vous pouvez réécouter cette émission sur jetfm.fr. Tout de suite après, retrouvez l'émission Chemin d'Afrique par Calomé.